Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à John Abbott en VR sur CKUT 90.3 FM diffusé sur CKUT.ca. Mon nom est Catherine Lache et je suis accompagnée aujourd'hui par Daniel Rondeau, professeur de français et linguistique au Collège John Abbott, pour parler de la situation de la langue française au Québec. Bonjour Monsieur Rondeau.
Bonjour Catherine.
Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Nous allons donc commencer. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire un peu plus sur vous-même et votre travail au cégep?
Ben, j'enseigne le français, langue seconde, la littérature et la linguistique au cégep John Abbott depuis maintenant 27-28 ans. J'ai une formation en linguistique appliquée, j'ai une maîtrise en linguistique appliquée. C'est ça, je me considère un peu comme une sorte d'ambassadeur du français dans ce cégep anglophone.
Comment est-ce enseigner et être professeur de français dans un cégep anglophone?
Ben, ça change, ça a beaucoup changé depuis mes débuts. Quand j'ai commencé, c'était juste avant le référendum de 1995. Les professeurs de français étaient beaucoup moins bien vus qu'aujourd'hui. On s'entend, là, c'est pas la matière préférée de beaucoup de gens à John Abbott. Mais l'accueil est beaucoup plus favorable, en tout cas du moins agréable maintenant que ça l'était en 95. En 95, il y avait beaucoup moins de francophones dans les corridors. On entendait beaucoup moins de français dans les corridors. Et il y avait beaucoup moins de gens qui venaient des écoles secondaires francophones. Et là, j'entends francophones, mais aussi des gens pour qui le français ou l'anglais n'est pas une langue maternelle. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas considéré bizarre de parler français, et même que la plupart des gens s'entendent pour dire que, bien que ce soit pas le fun, ben étudier le français, avoir une connaissance du français au Québec, ben c'est quand même assez important. Ce qui fait que, ben la situation va beaucoup mieux qu'elle allait à John Abbott. C'est pas encore parfait. C'est-à-dire on sent qu'il y a un fond de résistance, puis qu'il y a des gens qui l'expriment très bien, qui, pour eux, si le français pouvait carrément disparaître des cours au cégep, ben ça ferait leur affaire. Mais on entend beaucoup moins ce discours-là aujourd'hui qu'on l'entendait il y a 25 ans, par exemple.
Comment pouvez-vous caractériser la situation du français au Canada et au Québec en particulier?
C'est sûr que quand on parle au Canada, bien souvent on va parler de ce qu'on appelle le ROC, le Rest of Canada, qui est donc tout ce qui est le Canada hors Québec. Là. La situation du français hors Québec est alarmante. Là. C'est-à-dire que on sait que les taux d'assimilation des francophones hors Québec sont carrément effarants. On a vu jusqu'à tout dernièrement à quel point même l'Ontario, qui avait une minorité francophone sur son territoire, qui est en train de disparaître, on va se le dire, a de la difficulté à garder ouvert. Il reste un hôpital en Ontario qui est considéré comme francophone. Les universités qui sont juste francophones, il n'y en a pas. En fait, il y en a une qui vient d'ouvrir, mais il y a genre 100 étudiants, là, c'est presque rien. Sinon, il y a une université qui se considère bilingue, mais encore là, où on pratique du Québec et du French bashing allègrement. Puis tout ce qui est en dehors de l'Ontario, il reste un peu au Nouveau-Brunswick, où on a une province qui est officiellement bilingue, mais les seuls citoyens qui sont bilingues, c'est les 40% qui sont francophones. Le 60% anglophone ne l'est à peu près pas. Bref, hors Québec, la situation ne va pas bien pour les francophones. Au Québec, ça va relativement bien, relativement dans le sens où le français se maintient en dehors de l'île de Montréal. Parce que quand on va au centre-ville de Montréal, il y a de plus en plus de services uniquement en anglais. Le centre-ville de Montréal est en train de redevenir ce qu'il était en 1960. Il y a eu une petite accalmie là, où ça allait un peu mieux, mais là, depuis quelques années, on le constate. Là. Puis les études sont là pour le prouver. Là. Je veux dire, c'est pas un regard biaisé de dire qu'il est très difficile d'avoir un service en français au centre-ville de Montréal.
La langue française, selon vous, est-elle difficile? Est-ce que c'est vraiment la difficulté dont on parle quand on entend les gens dire que oh, le français, c'est trop difficile?
Bien là, on touche un aspect intéressant, c'est-à-dire que on entend souvent ce discours-là où des gens vont dire « le français, c'est trop difficile, bon ». Une langue, par essence, c'est difficile. Je ne connais pas de langue facile. La seule manière de rendre une langue facile, c'est de la pratiquer, de l'écouter, de la parler, et on finit par la trouver relativement facile. À cet égard, l'anglais paraît facile parce qu'il est partout. La raison pour laquelle on trouve que l'anglais, c'est facile, mais c'est parce qu'on le pratique constamment. On le voit partout, on l'entend partout. Les gens écoutent une quantité phénoménale de films, de téléséries en anglais. Les chansons sont en anglais à la radio. Bref, sans qu'on s'en rende compte, on pratique constamment cette langue-là. Et le fait qu'elle soit partout et le fait qu'on ait à la parler partout, bien, fait qu'on la pratique et donc on devient meilleur plus rapidement. Ceci dit, en effet, le français a des particularités qui le rendent à certains égards plus difficile. Mais ça, c'est propre à toutes les langues. Il n'y a pas une langue qui est facile dans la vie. Et le mythe que l'anglais soit la langue la plus facile, mais non, ce n'est pas vrai, là. C'est une excuse de dire « ben le français est difficile, donc je ne l'apprends pas ». Si tu ne l'apprends pas, c'est parce que tu n'as pas besoin de l'apprendre. Ce n'est pas le fait que ça soit facile que les gens, qui va faire que les gens vont plus le parler ou plus l'apprendre. On apprend une langue parce qu'on en a besoin. Là. C'est ça l'idée dans la vie, qu'on apprend une langue par amour ou par facilité, ça ne se peut pas. Si les gens n'apprennent pas le français, c'est parce qu'ils sont capables de vivre sans le français. C'est la seule raison.
Pensez-vous que le plus de gens parleront français si on le simplifiera, comme par exemple les réformes de l'orthographe française l'ont fait?
Voilà, c'est mon humble opinion, mais si on parvenait à simplifier le français, comme on a tenté de le faire en 90 avec une réforme bien timide de l'orthographe, selon moi, ça n'aura aucun impact sur est-ce que les gens vont plus l'apprendre ou pas. Si on simplifie, par exemple, l'orthographe, c'est simplement pour rendre la langue peut-être plus confortable et plus, plus facile pour les gens qui la parlent. Mais il n'y a personne qui va, il n'y a personne qui se lance dans une langue en disant « Ah, ben bon, d'où je l'apprendrais si l'orthographe était plus facile? » À cet égard, l'anglais, l'orthographe d'anglaise est peut-être une des orthographes les plus difficiles de toutes les langues. Au monde, ça n'empêche pas les gens de l'apprendre du tout. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah non, je ne l'apprends pas parce que ça n'a pas de bon sens que ce mot-là s'écrive de même. » Donc, ça n'a aucun impact. C'est juste le fait de est-ce qu'on veut se rendre la vie plus facile? Selon moi, on aurait tout intérêt à le faire, mais ça n'aura pas d'impact sur le fait que les gens vont vouloir l'apprendre ou pas. Là. Ça ne changera rien.
Pensez-vous que le français, un jour, pourrait disparaître au Canada?
Oui, ça me semble évident, puis à la limite, si je veux être un peu pessimiste, ça me semble presque inévitable. La plupart des linguistes s'entendent pour dire que la très, très, très grande majorité des langues vont disparaître d'ici les 200 prochaines années. Mm-hmm. Et il y a quelques langues qui vont survivre. Qui vont survivre et qui vont carrément prendre le plancher, qui vont prendre toute l'espace linguistique. Et avec les données qu'on a présentement, il est permis de croire que l'anglais va être une de ces cinq langues-là là, qui va prendre la place complètement. Est-ce que le français va disparaître de la planète d'ici 2 ans? Probablement pas. Le français va faire partie du happy few, là, des langues qui vont rester vivantes. Cependant, est-ce que le français va rester en Amérique du Nord? Il est en position délicate. On s'entend pour dire que le français, bien qu'il soit protégé par des lois au Québec, c'est quand même 2% de la population en Amérique du Nord qui parle le français. Fait que c'est une extrême minorité. Et que ce 2%-là est très conscient que s'il veut survivre en Amérique du Nord et il veut fonctionner, il faut qu'il devienne au mieux bilingue, au moins qu'il y ait une notion en anglais. Et on a vu, juste la situation, par exemple, du français au Canada depuis 100 ans, bien, la situation a complètement changé, là. C'est-à-dire que si on recule de, justement, 100, 150 ans, bien, les francophones représentaient presque la moitié des Canadiens. Aujourd'hui, ils représentent 20 %. Si on applique cette même logique statistique-là, puis on extrapole sur les 100 prochaines années, bien, on voit très bien que le poids des francophones va juste baisser. Et bien, un jour, bien, quand les francophones vont représenter 5 % des Canadiens, parce que ça va peut-être arriver là, à la vitesse à laquelle ça va, je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais ça risque d'arriver. Et ce jour-là, bien, quand tu représentes 5 % d'un pays, on sait ce que ça fait. Puis là, déjà, aujourd'hui, on entend, par exemple, au Canada anglais, bien, vous êtes juste 20 % de la population, donc prenez votre trou. Bien, quand ça va être 5 %, ça va être encore pire. Fait que ça va, selon moi, c'est une position assez précaire, là, assez fragile. Oui.
À quel moment, vraiment, le français a devenu être une langue en minorité que l'anglais? Parce qu'au début, c'était plus les francophones de la France, les Français qui sont venus en Amérique. À quel moment ça a changé de rôle?
Quelque chose qui a eu un gros impact, c'était bien sûr la conquête britannique, sauf que les Britanniques n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour le Canada à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont eu le territoire, ils ont pris une possession politique du territoire, mais n'ont pas occupé le territoire. Et rapidement, les Britanniques ont fait comme, ben, on n'est pas assez nombreux pour dominer les francophones. Donc, ils ont accommodé les francophones en disant, ben, prêtez allégeance au roi et on va vous laisser vivre en français. Donc, ce n'est pas proprement dit la conquête britannique. Ça a été l'indépendance américaine. Et l'indépendance américaine a été fortement appuyé par les Français. C'est-à-dire que les Français voulaient se venger des Britanniques, mais sans faire la guerre aux Britanniques. Et la façon qu'ils ont trouvé, ça a été d'appuyer les Américains en devenant indépendants. Et d'ailleurs, ils étaient tellement contents que quand les Américains sont devenus indépendants, ils leur ont donné la statue de la liberté. Donc, il y avait quelque chose où les Français étaient très contents. C'est comme un peu un pied de nez aux Anglais. Le problème, et ça, il n'y a personne qui l'avait vu venir, c'est les royalistes ou les loyalistes. C'est-à-dire les Anglais qui étaient aux États-Unis, mais qui voulaient rester britanniques. Et quand les États-Unis sont devenus indépendants, ces Anglais-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont juste déménagé au nord de la frontière. Et c'est à ce moment-là où, en l'espace de quelques années, les francophones sont passés de largement majoritaires à minoritaires. Et ça s'est fait très rapidement. Et là, bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les Britanniques ont pris possession des terres qui leur apparaissaient les meilleures, entre autres, tout autour des Grands Lacs. Et c'était tous des villages francophones à l'époque. Là. On a juste à penser à Kingston, qui s'appelait Fort Champlain. Donc, c'était des Français. Puis là, les Britanniques sont arrivés là, ils ont assimilé les Français ou ils ont chassé les Français qui étaient là et ils ont appelé ça Kingston. Il y a quelque chose qui était... Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est joué. Et depuis ce temps-là, ben, tranquillement, ben, il y a une érosion du français. Les Français ont été minorisés, ont été longtemps gardés dans une extrême pauvreté. On a juste à penser, il y a une centaine d'années, où la population du Québec, les francophones, les Canadiens français, là, on va élargir ça, les Canadiens français étaient tellement pauvres qu'ils ont fait ce que toutes les populations pauvres du monde entier ont fait. C'est-à-dire qu'ils se sont exilés, ils sont allés dans d'autres pays. Et à ce moment-là, la moitié, il y a une centaine d'années, fin du 19e, début du 20e siècle, bien, la moitié des Canadiens français sont allés vivre en Nouvelle-Angleterre. Ils ont émigré carrément en Nouvelle-Angleterre, à un point tel où il y a même eu des gens il y a même eu des journaux en français en Nouvelle-Angleterre, et il y a même eu des gens qui se sont dit, bien, le nord des États-Unis va parler français. Okay. Sauf que rapidement, ben, les Canadiens français sont mariés avec des Américains et les enfants sont mis à parler anglais. Et aujourd'hui, ben, on retrouve beaucoup de noms de familles francophones dans le nord des États-Unis, mais ça ne parle plus français. Les seuls qui parlent français, c'est ceux les plus vieux qui ont émigré à l'époque. Mais ça, il y en a dans ma famille. Là, je veux dire, c'est les cousins et cousines du bord de ma mère sont tous rendus aux États-Unis. Et c'est tous des gens qui étaient persuadés que ça parlerait français toute leur vie, mais ils parlent français, mais leurs enfants ne parlent plus français. Donc, on a vu à ce moment-là, entre autres, la moitié de la population... La population canadienne française a baissé de moitié en l'espace de 50 ans. Donc, ça a été peut-être les deux faits, là, l'indépendance américaine, pour résumer le truc, là, l'indépendance américaine et le fait, l'exode des Canadiens français à la fin du 19e siècle, ça a été les deux moments qui ont marqué l'histoire là, du peuple francophone au Canada.
Croyez-vous qu'en certains moments, le français peut devenir majoritaire en Francfort?
Ça, c'est fort peu probable. Ça serait très, très, très surprenant, bien que, bon, l'histoire a marqué... Il y a plein de choses surprenantes qui sont arrivées dans l'histoire, là. Mais dans l'état actuel des choses, c'est très, très peu probable. La minorisation des francophones au Canada semble inexorable. La seule place où on sent qu'il y a un désir de survie, c'est au Québec. Et on sent que ça ne fait pas plaisir aux anglophones canadiens. D'ailleurs, du moment qu'il y a une loi que le Québec essaie de passer une loi, le reste du Canada va l'amener devant les tribunaux. Et aux yeux et aux oreilles des anglophones, mettre des lois linguistiques leur apparaît comme extrêmement liberticide. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme... D'ailleurs, souvent, dans les médias anglophones, on va comparer ces gens-là à des nazis. Là, alors que des lois linguistiques, ça existe partout. Il y en a même aux États-Unis, il y en a au Canada anglais. Mais quand on arrive au français, on a l'impression que les anglophones oublient qu'ils ont eux aussi des lois pour protéger l'anglais. Mais bon, ils ont l'impression que ces lois-là ne sont pas liberticides parce que tout le monde choisit l'anglais. Mais c'est sensiblement la même chose.
Et finalement, aujourd'hui, que peut-on faire pour encourager l'apprentissage et la pratique du français?
Bien, pour encourager l'apprentissage et la pratique, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est-à-dire que, comme je disais au début, on apprend une langue parce qu'on en a besoin. Okay? On n'apprend pas une langue par amour ou par pitié pour un peuple. Et si oui, ben, y a quelques personnes qui vont le faire, mais c'est 5 ou 10 personnes. C'est pas des millions comme il faut pour qu'un peuple survive. Donc, la seule manière qu'une langue survive, c'est qu'elle soit utilisée. Et donc, à partir du moment où on l'utilise, à partir du moment où on se dit « gars, c'est important qu'on l'utilise », les gens vont finir par la parler. C'est sûr que dans un contexte où la population du Québec, par exemple, est de plus en plus bilingue, plus les francophones vont être bilingues, plus ils vont utiliser l'anglais et plus ça va donner l'impression aux anglophones que le français n'est plus obligatoire ou du moins n'est plus utile parce que tout le monde parle anglais. Et d'ailleurs, c'est un peu la raison que les anglophones donnent, c'est-à-dire pourquoi je parlerais une autre langue? Le reste de la planète parle anglais. Et ils ont raison. Sur le fond, c'est très vrai. Je veux dire, l'anglais est rendu la langue seconde la plus répandue à travers le monde. Donc, d'où l'importance de continuer à utiliser le français comme langue commune sur les territoires où le français est le plus parlé, comme par exemple au Québec. Donc, c'est la seule manière, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste comme une langue commune. Est-ce qu'il faut que ça reste la seule langue? Non, je pense que c'est très clair dans l'esprit d'à peu près tout le monde, même au Québec, que l'anglais est une langue essentielle. On n'a pas le choix de l'apprendre pour fonctionner en Amérique du Nord, au Canada anglais, en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Mais c'est important de continuer à utiliser le français ici si on veut au moins prouver aux gens qui se donnent la peine de l'apprendre, mais dire, tu ne l'apprends pas pour rien. T'sais.
Merci beaucoup pour nous joindre pour cette entrevue. Je m'appelle Catherine Lache et c'était une entrevue avec Daniel Rondeau, professeur de français et linguistique au Cégep John Abbott. Vous écoutez à John Abbott on the Air sur CKUT 90.3 FM. Merci pour votre écoute et bonne journée.
Thank you. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire.
Good morning. This is Stephanie Colangelo and Catherine Ehrlich, and you're listening to John Abbott on the air on the CKUT radio station 90.3 FM. The society we live in today has many standards set up, but what about uncommon beliefs? Today we're going to hear John Abbott students telling us their biggest hot takes.
Socks and sandals are cool.
Milk always goes before the cereal.
I like pineapples on pizza.
People think communism is a bad system and capitalism is a good one because in communism it was like white people in trouble and in capitalism it's non-white people in trouble.
Nuclear fusion should be used more and nuclear plants should be well used. There is no real danger to us other than radioactive pollution. And radioactive pollution is only really a problem when people don't follow instructions. Chernobyl was just because a bunch of people didn't follow the instructions and it blew up because people were stupid.
Justin Trudeau should not just publicly apologize for First Nations abuses recently, and I think that he has to rehaul what used to be called the Indian Department.
I got a bad desire. Oh, I'm on fire.
What is your biggest hot take? Surprisingly, it's not as easy to think about one. This is Catherine Ehrlich and Stephanie Colangelo on John Abbott on the Air on CKUT 19.3 FM, streaming on CKUT.ca. Thanks for joining us and stay tuned to hear more engaging material.
See the clouds are creeping towards the sun.
Hello listeners, this is Catherine Ehrlich and you're listening to John Abbott on the Air on CKUT 90.3 FM. Did you know there are over 850 different species of bees living in Canada? Some are social and live in hives such as honeybees, but others, such as multiple species of bumblebees, prefer to live underground in burrows they dig for themselves. These wild bees produce little quantities of honey, but they're essential for the continued flourishing of wild and cultivated crops, as most of the pollination comes from them. Yet in these last years, the number of bumblebees has greatly decreased. Why did that happen, and how can we prevent wild bees in Canada from completely disappearing? I talked with Morgan Jackson, who works at McGill University Lehman Entomological Museum as a postdoctoral researcher who has a PhD in insect taxonomy and phylogenetics from the University of Guelph. Why are bumblebees disappearing in Canada?
Bumblebees are facing a lot of different threats, one of them being habitat loss. So they don't necessarily have the flowers that they need to be able to pollinate and to feed from. They also are running out of places where they can make their nests, or the places that they would like to make their nests are being disturbed. They're also running into a whole bunch of different diseases and new diseases that are being introduced to them by agricultural systems where we're bringing in bees and ferrying bees around. And those bees are sometimes bringing in parasites and diseases and causing little mini pandemics within local populations of bees, things that they're not used to. And that's causing problems for their biodiversity and for them to be able to survive. We're also running out of pollination services. So flowers, we're not having as many flowers around, or the flowers aren't overlapping. And so they may go from having lots of flowers around to having no flowers around and starting to starve themselves. So, and on top of all of that, we've got global climate change, which is continuing to add to these problems where we're getting flowers blooming at the wrong time and not at the right time for the bees. And so all these different factors are starting to influence them, and we're seeing declines straight across the board across bumblebees.
As the situation of wild bees becomes very pronounced, more and more people are learning about wild bees and their importance for nature. Are you aware of the wild bees situation in Canada?
Yes, I am aware of a bee situation in Canada where there is a shortage of them, and some people and organizations are trying to save or protect them. That's about the extent of my knowledge.
I know that it is a problem and that they are going extinct, but I don't really know much about it and what implications it would have on our society.
I am aware of the situation. I'm not an expert, but I do know that if bumblebees go extinct, that will create a lot of problems for us because they pollinate our fruits and veggies. It's a really big cycle, if they go extinct, so we definitely need them around.
I know that bumblebees are endangered And it's a really big problem because they help us with food and plants and the environment.
These were the answers Jenabat College students gave me. As the situation becomes more clear, it is important and urgent to act to prevent the extinction of wild bees and preserve their habitat in nature. What are some solutions to the situation of wild bees in Canada?
So one of the things people can do at home is to grow a diversity of different flowers, leaving your lawn to grow and flower and having different types of plants on your property if you've got it or wherever you've got ability to keep plants going. So keeping some flowers around all throughout the year. You also want to try and keep some habitat around. You know, leaving some of the leaf and bare soil around your yard or your property will allow them to start making their nests and finding a home safely. Something that we're doing here on campus on John Abbott and between McGill and John Abbott is creating these pollinator safe spaces where there's basically bare ground. We're getting rid of the grass, getting rid of the plants, and leaving bare open ground for bees like bumblebees, as well as a lot of solitary ground nesting bees who are also struggling to finally have a chance to find a nest, make a nest underground, have it undisturbed for the winter so they can rest and grow over the winter and then emerge in the spring and continue the cycle. That is hopefully going to encourage bees to live amongst us.
My name is Catherine Illick, and you're listening to Jenabat on the Air on CQT 19.3 FM, streaming on CQT.ca. Wild bees in Canada, such as multiple species of bumblebees, are facing some serious damage from natural habitat loss, agricultural pesticides, and numerous diseases and parasites. You can still act upon this situation, for example, planting diverse flowers and plants in our gardens. It is time to save wild bees and save our future.
Hello, this is Jenabat on the Air, CKUT 90.3 FM, with your hosts, Kayla, Colleen, and Camille. Seeing how climate change is a hot-button topic, we went around Jenabat College and interviewed some students to get their thoughts on the matter, to find out if they were hypocrites or realists.
I'm definitely active in it, especially since we're Indigenous. So Inuit communities would be affected first, since the permafrost would be melted, the marine animals would be without a home, and, you know, everything's melting up there.
Yeah, and the mercury levels would rise a lot, so then we wouldn't be able to eat fish, which we mainly, like, eat our food from the land.
Yeah.
That's traditions, like, it's centuries old. Also, with water. Like, yes. A lot of communities rely on clean water, but right now with the pipeline that they're trying to do, communities won't have access, and animals will have to, like, take different routes, and that will also affect the hunting.
So, me and my family, we recently got composting, and since for, like, years we didn't have one, and recently we've noticed how much food waste we've had, and we also got a natural earth maker, where you put any food scraps in it, that isn't meat or bones, and it turns into natural dirt that we then use for my greenhouse, where we get a lot of our produce for, like, salads and such.
I'm not really active in climate change, but at home I do, like, composting and stuff, so I guess it helps a bit.
I'm not that active, but I take the bus, so I guess it's a good thing. Yeah,
thrift?
I compost, and I go thrifting sometimes.
With global warming on the rise, Dua Lipa is finishing us off by making it hotter than hell. This is John Abbott on the Air on CKUT 90.3 FM with your hosts Kayla Ravinsky, Colin McRae, and Kamit Sirith. Thank you for listening.
That's all we have for today. Thank you for listening to CKUT 90.3 FM. This is John Abbott on the Air. I'm Evie Stockvist. See you next time.
CKUT 90.3, samedi midi. Happy birthday, Félix Complé, Agneau, joyeux anniversaire. Happy birthday, Félix Complé, Agneau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Samedi midi inter. Fêter. Tout on a fêté. Non, c'est caïté. Tout on a fêté. Fêter. Tout on a fêté. 90 fois 3. Samedi midi inter. Ça fait la 30e fois dans la cour Montréal. Fêté, lancé qualité. Ça fait la 30e fois dans la cour Montréal. Fêté, quand on a fêté. Oui, mon Laurent, il va t'il. Je t'ai parlé au mon Laurent, à nous célébrer. Il passe, fêtez ou fêtez, fêtez n'a fêtez, viens pour les.